Bonjour à tous, je suis Patrick Sauss, éditorialiste international à BFM TV. La semaine dernière, le ministère russe des Affaires étrangères s'ingérait, cette fois officiellement, dans les affaires politiques de la France. Dans un tweet en anglais, son porte-parole adjoint assurait que le peuple français recherchait, je cite, « une rupture avec le diktat de Washington et de Bruxelles », avec une photo de Marine Le Pen tout sourire et ce pupitre barré du slogan du Rassemblement national « l'alternance commence ». Alternance, il y aura peut-être, mais sur notre relation avec Moscou, les électeurs français ont décidé ce dimanche soir que rien ne changerait aux grandes dames du Kremlin. Bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous retrouvons le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Alors ce lundi matin, midi, en lisant les dépêches de l'agence TASS, qui est la grande agence de presse et d'État russe, bah figure-toi que je n'ai aperçu qu'une petite et seule occurrence concernant les législatives françaises. Alors je te lis le titre de cet unique article, « Macron rejette la démission d'Attal ». Bon, c'est un petit peu court, et j'ai un peu besoin de tes lumières. On attendait, selon les résultats, une réaction de Moscou. Est-ce que c'est venu ?
Oui, et elle est plutôt intéressante. En fait, cette réaction, elle est venue pendant le jour du scrutin et juste avant les résultats. Et je voudrais noter d'ailleurs que ce soit cette réaction ou celle que tu viens de citer qui a eu lieu donc entre les deux tours. Donc ce tweet qui en gros mettait le Kremlin du côté du RN. Ce sont des réactions pas si courantes, même un peu étonnantes, parce que le Kremlin, on le sait, est bien s'ingéré dans les situations et les contextes politiques des autres pays, mais il essaye quand même de le faire de façon un tout petit peu plus subtile. Alors c'est pas toujours très subtil, mais de là à apporter directement son soutien à un parti. Finalement, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont toxiques et ils savent que c'est pas forcément aider le parti en question que d'apporter un tel soutien. Donc c'était assez étonnant que dans cette dernière ligne droite, il y ait des propos comme ça qui soient très directs. Et donc celui que je voulais te citer, c'était Sergueï Lavrov, qui a quand même dit quelque chose qui, pour moi, est très russe, parce que c'est quelque chose qu'on... C'est une logique et qu'on entend au quotidien en Russie qui consistait à expliquer qu'en gros toute cette ces débats, ces discussions qui ont eu lieu entre les deux tours pour faire passer certaines triangulaires en combat RN gauche ou RN droite ou RN macroniste, pour dire ça comme ça, toutes ces discussions, eh bien le Kremlin considère que c'est pas démocratique et que c'est la phrase exacte de Sergueï Lavrov, c'est le second tour a été conçu précisément pour manipuler la volonté des électeurs, car si les résultats du premier tour étaient pris comme base pour la formation du Parlement français, il y aurait des changements très sérieux dans le pays. Clairement, le Kremlin avait un plan pour la France. Ils avaient leurs favoris. Et là, leur plan, bien sûr, ont été un peu cassés par le résultat de ce second tour. Mais en tout cas, ce que je voulais préciser, c'est que cette prise de position des autorités russes, elle est vraiment pas si courante. Et donc, ça montre quand même qu'il y avait un vrai espoir de la part de la Russie que cette situation politique en France puisse contribuer à pousser le conflit en Ukraine, on va dire, dans leur sens, quoi. Est-ce que leurs éléments de langage aussi, peut-être, fonctionnent mieux, touchent encore plus la France, l'Europe, parce que derrière, il y a quand même une volonté un peu cachée des autorités russes qui est pas toujours très assumée, mais leur rêve, ce serait quand même de détruire l'Union européenne, parce que pour eux, c'est une espèce d'association illégitime. C'est tout ce qui est... toutes les possibilités, les opportunités, plutôt, on essaie de les saisir en Russie. Mais d'habitude, avec modération, encore une fois, parce qu'on n'attend plus rien des Occidentaux, de manière générale, à Moscou. Et donc, on attend généralement de voir ce qui se passe. Et si c'est à l'avantage de Moscou, c'est très bien. Si c'est pas à l'avantage de Moscou, eh bien, c'est ainsi. Et d'ailleurs... Je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais il y a eu quand même une frappe assez terrible au lendemain de cette élection sur l'Ukraine qui a visé un hôpital pour enfants. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas une façon de la part des Russes de rappeler que la guerre a lieu et que la pression est toujours aussi forte, alors même qu'on a eu la sensation que pendant ces législatives, il y avait une espèce de flottement de la part de la Russie qui attendait de voir ce qui se passait, quoi.
Oui, surtout que malgré le climat ambiant de ces dernières semaines, si on regarde sur ces derniers jours, disons depuis jeudi dernier, qui gagne des élections en Grande-Bretagne ? Pour le coup, Sergueï Lavrov devrait être content, c'est un scrutin à un tour. Ce sont des travaillistes qui, comme les conservateurs d'ailleurs, sont vraiment pour un soutien renouvelé à l'Ukraine. Il y a donc ce résultat au-delà de la confusion et des trois blocs, on a quand même grosso modo deux blocs sur trois qui sont pour un soutien plein et entier à l'Ukraine. Et puis, en ce moment même, Volodymyr Zelensky est en Pologne avant de partir à Washington pour le sommet de l'OTAN. Et donc, on a l'impression quand même que cette dynamique se poursuit, alors même qu'il y a une fragilité, qu'on avait beaucoup de craintes, au-delà même de l'élection de Donald Trump ou pas aux États-Unis, une crainte sur l'Europe. Et c'est ce que tu sens aussi à Moscou, que finalement, on a un peu loupé son coup.
Sachant quand même, entre les deux, entre tout ce que tu viens de dire, il y a aussi eu quand même une visite de Viktor Orban à Moscou, qui lui est un peu arrivé avec le drapeau européen en sous-entendant qu'il était là au nom de l'Union européenne. Évidemment, c'était pas le cas. Mais ça a été aussi quelque chose de positif pour la Russie. Il y a quand même eu aussi une victoire française, enfin russe plutôt, sur la France. Rien que le fait qu'il y ait ces législatives et que les débats pendant toutes ces semaines se concentrent uniquement sur la politique nationale, j'ai l'impression que toutes ces discussions sur l'aide à l'Ukraine, l'envoi d'hommes, tous ces missiles qu'on voulait autoriser à utiliser sur le territoire ukrainien, j'ai quand même l'impression que ce sont des débats qui ont un peu fait, on va dire, au moins un pas en arrière. Et pour la Russie, ça a été quand même vécu comme un contexte positif, tout ce qui se passait. Mais forcément, c'est vrai, l'actualité rappelle qu'il ne faut jamais s'emballer, qu'on soit côté ukrainien ou côté russe, parce que le contexte a l'air positif, a l'air de prendre une bonne direction. Et puis parfois, c'est l'inconvénient des démocraties pour le Kremlin. Il y a un moment où les peuples ont leur logique, les pays, les débats publics prennent un sens ou un autre, et le résultat, c'est que c'est pas forcément les chevaux sur lesquels le Kremlin avait misé qui gagnent la course au bout du compte.
Oui, miser c'est bien, mais influer ou influencer, ça c'est pas toujours possible en démocratie. Moi je note que parmi les nouveaux entrants, je dirais, parce qu'il avait quitté l'Assemblée nationale, on a quand même un ancien président de la République, François Hollande, qui a bien connu Vladimir Poutine, l'ancien président, qui est toujours très peu avare d'anecdotes. Je me souviens vraiment qu'il avait expliqué notamment ses rendez-vous avec Poutine et Angela Merkel. On le sait, Angela Merkel a une phobie énorme des chiens qu'avait fait Vladimir Poutine. Il avait amené son chien à ses genoux pour terroriser la chancelière allemande. On est dans ce genre de choses-là. Justement, les liens des Russes ou des médias russes ou des politiques russes avec nos chefs de l'État, on le sait. La Russie aime bien les pays qui ont un chef. Et pour le coup, le régime semi-présidentiel français pourrait leur convenir. Au moins, ils ont un monarque républicain face à eux. Quelle a été justement cette vision au-delà d'Emmanuel Macron, d'un François Hollande, d'un Nicolas Sarkozy, voire d'un Jacques Chirac, mais plutôt les deux premiers vis-à-vis du, j'irais presque, le nouveau Poutine, pas forcément celui des années 2000, début des années 2000.
Oui, mais justement, c'est pour ça, pour tout dire à nos auditeurs, quand on discutait du sujet qu'on pouvait aborder aujourd'hui, on hésitait parce que c'est sûr que le Kremlin avait tellement misé sur une victoire du RN. Et ça devenait tellement clair qu'on s'était dit qu'il y avait un sujet. Mais en fait, le sujet, il existe toujours parce que en Russie, on connaît les noms de nos présidents. Enfin, quand moi, je voyage dans le pays, des fois, on me demande si je connais le président en personne, en me citant son nom. Enfin, c'est pas forcément évident. Hein. Moi, en reportage en Russie, je vais quand même régulièrement dans des régions dans lesquelles je rencontre des gens qui n'ont jamais rencontré de Français, voire d'étrangers de leur vie. Je suis le premier étranger qu'ils rencontrent. Et pourtant, ils sont capables de sortir le nom du président de mon pays. Alors moi, je peux évidemment sortir le nom du président de leur pays parce que il a jamais changé depuis que je suis journaliste.
C'est plus facile.
Voilà. Et ceci dit, heureusement qu'on me demande pas toujours de citer le nom du premier ministre ou des ministres russes, puisque pour le coup, mais même eux les connaissent pas, je pense en Russie. Mais bon, voilà. Et donc, avec le temps, je me suis rendu compte que certains de nos présidents et de nos personnalités politiques étaient plus ou moins connues chez les Russes. Et c'est comme pour les vedettes, comme les chanteurs, les Patricia Cass ou les Mireille Mathieu, qui, on peut le considérer, ont peut-être une carrière un peu plus développée ou plus de succès en Russie que chez nous. Et donc, ce qui est très intéressant, donc, c'est de voir la vision que les gens ont eue de nos présidents, les Russes ont eue de nos présidents. Et par exemple, François Hollande, j'ai toujours trouvé ça un peu drôle parce que déjà personne ne retenait jamais son nom. Moi, à chaque fois, les gens me disaient, alors il y a eu Jacques Chirac, Sarkozy, et puis ensuite Macron. Et à chaque fois.
Ah, il en manque un.
Déjà, à chaque fois, j'étais obligé de leur rappeler qu'il en manquait un et généralement, ils le connaissaient pas vraiment. Et ceux qui le connaissent avaient une très mauvaise vision de lui, ce qui était aussi cohérent avec les déclarations à chaque fois que François Hollande, tu viens de le rappeler, mais parle de ses quelques rencontres avec Vladimir Poutine, il y a pas beaucoup d'éloges, c'est vraiment, généralement, il me semble qu'il parle de son regard froid, du côté assez dur de ce président, et c'est des mots qui correspondent presque plus à ceux que Biden... qui pour le coup étaient des mots violents à pu utiliser quand il a qualifié Vladimir Poutine en arrivant au pouvoir. Mais voilà, et donc à côté, on va plus... Alors, les Russes sont fans du général de Gaulle, pour vraiment revenir très loin. Donc on me parle aussi régulièrement de Gaulle, d'autant plus que Vladimir Poutine, lui, l'a un peu remis à la mode ces derniers temps. En essayant d'expliquer que Macron s'était pétain et que aurait préféré que la France prenne plutôt la voie d'un De Gaulle, ce qui est intéressant parce qu'en France on a des politiciens qui se réclament de Gaulle ou de son héritage assez régulièrement et qui sont pas toujours des politiciens dont la ligne politique correspond vraiment à cette ligne. Donc voilà, c'est pour dire que De Gaulle, il est utilisé partout, n'importe comment, que ce soit en France ou en Russie. Derrière, il y a eu Sarkozy qui a laissé une trace un peu particulière parce que on se rappelle de son nom. Je pense qu'on le voit comme quelqu'un qui avait plus de caractère que François Hollande. C'est peut-être ce qui fait qu'on retenait plus son nom. Et puis, forcément, Nicolas Sarkozy, il a eu un rôle assez clé et médiatisé, c'était en 2008, l'été 2008, quand il a vraiment activement participé aux négociations pour stopper la guerre entre la Russie et la Géorgie. C'était Dmitri Medvedev qui était le président russe à l'époque. Donc on a au moins retenu son nom pour ça. C'est ce qui est intéressant, en fait, quand on se penche sur la vision que les Russes peuvent avoir de nos présidents. C'est que cette vision, elle évolue avec les contextes politiques. Et donc, ce Nicolas Sarkozy, bon, il poussait la Russie à arrêter la guerre contre la Géorgie en 2008. Mais pourtant, on en a gardé plutôt une bonne image parce que d'ailleurs, le dialogue continuait. Tout était encore possible. On n'était pas dans cette situation d'une Russie vraiment écrasée par les sanctions occidentales qui a la sensation que plus personne ne veut lui adresser la parole.
Pour autant, Paul, François Hollande, lorsqu'il était à l'Élysée, a été l'homme qui a tenté le dialogue. Il y avait ce format Normandie, ces discussions à Minsk aussi, avec à chaque fois Vladimir Poutine à ses côtés, ou en tout cas dans le quatuor, c'est-à-dire l'ukrainien, le russe, l'allemande et le français. Ce sont vraiment ces déclarations post-Élysée, finalement, qui ont un peu fait changer le regard des Russes.
Je sais pas, mais en fait, je pense que c'est vraiment lié effectivement au contexte politique dans lequel sont apparus ces présidents. Et effectivement, François Hollande, il était président en 2014 quand la guerre a commencé en Ukraine. Et il y a eu des décisions françaises, mais surtout européennes, de sanctions contre la Russie. Et la France étant un pays plutôt écouté en Europe, avec une position assez importante, forcément, les présidents se retrouvent assez exposés et donc seulement et uniquement critiqués, sachant que peut-être qu'en 2014, on s'attaquait plus à l'Europe, à l'Occident, et puis de toute façon, de manière générale, on s'attaque l'Occident, et, enfin l'Europe est manipulée par les États-Unis, donc du point de vue des Russes, donc de toute façon, quelque part, François Hollande était, comme d'autres présidents européens, le président victime des États-Unis. Et donc, cette vision de ces présidents, elle se construisait de cette façon-là. Alors, c'est vrai que nous, on a été marqués par ces accords, ce format Normandie, ce format de négociation Normandie qui est né en Normandie à l'occasion des cérémonies du débarquement. Mais ce ne sont pas des accords qui ont vraiment marqué les Russes, parce que les Russes eux-mêmes savaient que l'objectif avant tout c'était d'atteindre la capitulation de l'Ukraine, et que ces accords, si les Occidentaux tombaient dans le piège de ces accords, en fait devaient seulement amener cette capitulation. C'est ce qui a été tenté et ça a traîné plusieurs années. Et François Hollande, comme Angela Merkel, sont vus comme des dirigeants qui n'ont pas été capables de contraindre l'Ukraine de mettre en pratique ces accords. Et je rappelle aussi toujours au passage que la Russie n'a pas plus respecté les accords de Minsk que l'Ukraine, mais en tout cas, c'est un reproche qui a été fait à l'Ukraine. Et donc, François Hollande et d'autres dirigeants occidentaux de cette période-là ont été vus comme des gens incapables de faire plier l'Ukraine.
Pour la période à venir, comment ça s'annonce ? On a parlé de ce tweet, mais finalement, et là je fais une petite incise dans la politique française, pour avoir discuté avec les uns et les autres, il s'agissait peut-être d'un baiser de la mort de la part des Russes, puisque pour essayer de se normaliser auprès des Français, Jordan Bardella avait martelé que non, le RN n'était pas pro-russe, que le RN était pro-Ukraine, avec des lignes rouges qui n'étaient pas celles d'Emmanuel Macron. Et je me suis laissé dire que c'était une façon, avec ce tweet, de mettre le RN devant ses responsabilités. Le fait est que, au-delà de cette ingérence, on n'a pas vu, entre les deux tours, de tentatives de trolling, pardon, mais de désinformation également venues de Russie, de manips type pochoir sur des murs parisiens. On avait l'impression que les Russes tenter de laisser les choses se faire, peut-être comme Sergueï Lavrov le pensait, c'est-à-dire que ce qui avait été voté au premier tour allait l'être de la même façon au second tour. Est-ce que tu penses que l'entreprise de désinformation, d'ingérence, va reprendre après le résultat de ce dimanche ?
Oui, parce que moi j'ai la sensation que s'il n'y a pas eu d'ingérence, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps, parce que comme on n'a pas d'ailleurs beaucoup eu le temps d'avoir des débats démocratiques durant ces élections en France, hein, d'ailleurs.
Et oui, 5 jours seulement, hein, c'était très très court.
Et pour qu'il y ait ingérence, il faut quand même qu'il y ait des débats démocratiques sur lesquels s'appuyer, parce que par débat démocratique, j'entends des discussions, des oppositions d'idées que les Russes vont interpréter comme étant des failles de notre système, et donc ils vont pouvoir choisir où appuyer pour influencer les choses. Sauf que comme les débats n'ont pas vraiment eu lieu sur les idées entre ces tours, mais qu'il s'agissait plutôt de calculs politiques, en gros, pour limiter les dégâts face au Rassemblement National, bien le Kremlin, je pense, ne pouvait pas faire grand-chose derrière. Alors, je ne sais pas si c'était un acte désespéré de leur part que de dire ouvertement le RN est le parti qui nous est le plus proche et qui nous apporte le plus d'espoir, parce que c'est celui qui est le plus proche des négociations à la russe. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut du temps, quel que soit le type de désinformation ou de tentative d'ingérence, pour les mettre en place. Et que ce temps, la Russie ne l'a pas eu. Ce qui ne va pas l'empêcher, moi, je pense que ce sera le cas de les reprendre, notamment pour les Jeux Olympiques, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ont en tête. Il y a toujours cette frustration énorme pour les Russes de ne pas voir leurs athlètes participer aux JO, ou seulement quelques-uns de leurs athlètes qui, eux, seront là sans drapeau, sans l'hymne, sans toute la façade patriotique qui est presque la chose la plus importante pour eux. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on voit les choses réapparaître. Je vois dans la presse russe d'aujourd'hui, que, d'après élection du moins, que Alors, on commence à penser, enfin, on rappelle qu'il y aura une présidentielle en France dans 3 ans, si je ne me trompe pas, et
3 ans, tout
que
à fait.
voilà, et que tout pourrait se jouer à ce moment-là, et que visiblement c'est une échéance qu'on va maintenant essayer de garder en tête en Russie, tout comme on a l'échéance des élections américaines bien en tête à Moscou.
Les JO, ça arrive très très vite pour nous. Le fait est, on le sait, que les Russes sont prêts, les agences russes sont prêtes à interférer, à s'ingérer, à désinformer, mais il se trouve que les services français sont prêts aussi et nous disent qu'ils sont prêts depuis longtemps, mais ce sera évidemment intéressant, parfois peut-être un peu effrayant à suivre, mais ça fait partie des grandes luttes des semaines prochaines. Ça va arriver très vite. Justement, je te dis à la semaine prochaine, Paul. Et d'ici là, eh bien, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur BFM Radio, bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.